cette impression qui n'a de nom qu'en français. Floyd ? C'est quoi ce truc là-bas ? Oh merde ! La voix d'homme prononçant ces mots était vaguement familière, mais les mots eux-mêmes se réduisaient à des fragments de dialogue, le genre de phrase déconnectée qu'on attrape au vol quand on zappe d'une chaîne à l'autre. Elle ne connaissait aucun Floyd. C'est cependant avec ça que tout a commencé. Même avant d'avoir vu la petite fille au tablier rouge, il y avait eu ces mots sans lien. Mais c'est la petite fille qui servit de déclencheur. « Oh, oh, j'ai une drôle d'impression, » dit Carole. La fillette au tablier, accroupie sur ses talons avec, sous le tablier d'un rouge éclatant, sa robe coincée entre les cuisses, jouait à la poupée devant une épicerie de campagne. Carson's, bière, vin, épicerie, appât, loterie. « Quelle impression ?» demanda Bill. « Tu sais bien, cette impression qui n'a de nom qu'en français. Aide-moi donc !»« Déjà vu. C'est ça !» dit-elle en se retournant pour regarder la petite fille une dernière fois. Elle va la tenir par une jambe, à l'envers, et les cheveux d'un jaune crasseux de la poupée pendront. Mais la fillette avait abandonné son jouet sur les marches en bois, grisâtre et hérissé d'échardes, et était allée examiner un chien enfermé dans une cage à l'arrière d'un monospace. Puis la route fit un virage, et la voiture de Bill et Carol Shelton perdit le magasin de vue. « C'est encore loin ?» demanda-t-elle. Bill la regarda, un sourcil levé, une fossette apparente. Sourcil gauche, fossette droite, toujours pareil. Ce regard qui disait « Tu penses que ça m'amuse, mais en réalité je suis irrité. Pour la 300 milliardième fois depuis que nous sommes mariés, je suis vraiment irrité. Tu ne t'en doutes cependant pas, car tu ne vois pas à plus de 2 cm en moi. Après, plus rien. » Mais elle avait une vision meilleure que ce qu'il croyait. C'était l'un des secrets du mariage. Il avait probablement lui aussi quelques secrets, et il y avait ceux, évidemment, qu'il partageait. « Je ne sais pas, » répondit-il. « C'est la première fois que je viens ici. Mais tu es sûr que nous sommes sur le bon chemin. Une fois qu'on a pris la route de la digue et qu'on est sur Sanibel Island, il n'y a plus qu'une route. Elle traverse Captiva et s'arrête là. Mais auparavant, on passe devant Palm House. Je te le promets. » L'arc de son sourcil redescendit. La fossette s'atténua. Il retournait à ce qu'elle avait baptisé dans son fort intérieur le grand plat. Elle avait fini par détester aussi le grand plat, mais pas autant que le sourcil et la fossette, ou que sa manière sarcastique de dire « Je te demande pardon » quand elle lui disait quelque chose qu'il jugeait stupide, ou encore que son attitude détirait sa lèvre inférieure quand il voulait donner l'impression qu'il réfléchissait, tergiversait. « Bill, connais-tu quelqu'un du nom de Floyd ?»«
Oui.
Floyd Donini. Pendant notre dernière année de fac, on tenait tous les deux le snack bar de l'université. Je t'en ai parlé, il me semble. Il a piqué l'argent du distributeur de Coca-Cola un vendredi pour aller passer le week-end à New York avec sa petite amie. Il a été suspendu et elle a été virée. Qu'est-ce qui te fait penser à lui ? Je ne sais pas. » Plus facile que de lui répondre que le Floyd avec lequel il avait été à la fac n'était pas le Floyd auquel s'adressait la voix dans sa tête. Ou du moins, c'était son impression. Une deuxième lune de miel. Voilà comment on appelle ça, pensa-t-elle en regardant défiler les palmiers le long de l'autoroute 867. Un oiseau blanc arpentait le bas-côté avec une allure de prédicateur en colère, et elle déchiffra un panneau qui disait « Réserve naturelle Séminole, $10 par véhicule ». La Floride, le pays du soleil. La Floride, le pays de l'hospitalité, sans même parler de la Floride, paradis des lunes de miel bis. La Floride, où Bill Shelton et Carol Shelton ex-O'Neill de Lynn, Massachusetts, étaient venus passer leur première lune de miel 25 ans auparavant. À ceci près qu'ils avaient loué de l'autre côté, sur l'Atlantique, un petit chalet préfabriqué où, dans les tiroirs de la commode, prospéraient des colonies de cafards. Ils ne pouvaient s'arrêter de me peloter. Mais ce n'était pas un problème. À l'époque, je ne demandais que ça, qu'ils me pelotent. Bon Dieu, qu'ils me mettent le feu, oui. Comme Atlanta, dans Autant en emporte le vent, qu'ils me fassent brûler jusqu'au sol et qu'ils me reconstruisent, pour me remettre le feu. Et aujourd'hui, l'argent. 25 ans. Ce sont les noces d'argent. Et parfois, j'ai cette impression. Ils approchaient d'un virage et elle pensa « Trois croix, côté droit de la route, deux petites, la plus grande au milieu. Les petites sont deux simples planches clouées. Celle du milieu est en bouleau argenté avec une image dessus, la photo d'un gosse de 17 ans qui a perdu le contrôle de sa voiture dans ce virage par une nuit d'ivresse qui fut sa dernière, et c'est là que sa petite amie et ses copines ont dressé les croix. » Bill s'engagea dans le virage. Deux corbeaux rebondis, d'un noir brillant, s'envolèrent lourdement de la chaussée sur laquelle une forme était aplatie au milieu d'une flaque de sang. Les oiseaux s'étaient tellement empiffrés que Carol crut un instant qu'ils n'auraient pas le temps de se sortir de leur chemin. Il n'y avait pas de croix, ni sur la gauche ni sur la droite. Rien qu'un animal écrasé sur la chaussée, un écureuil terrestre peut-être, sur lequel passait à présent une voiture de luxe qui n'avait jamais été plus loin que la Géorgie en direction du nord. « Floyd ? C'est quoi ce truc là-bas ? Qu'est-ce qui t'arrive, hein ?» Elle le regarda l'air ahuri, se sentant un peu délirante. « Tu es assise, toute raide. Tu as une crampe dans le dos ?
Oui, un peu. »
Elle se laissa aller progressivement contre le dossier. « J'ai encore eu cette impression de déjà-vu. C'est passé ?
Oui. »
Mais elle mentait. L'impression avait légèrement battu en retraite, c'était tout. Une impression qu'elle avait déjà éprouvée, jamais de manière aussi continue pourtant. Elle était intense, puis diminuait sans disparaître. Elle en avait eu conscience depuis que cette histoire avec Floyd avait commencé à retentir dans sa tête. Après quoi, il y avait eu la petite fille au tablier rouge. Mais en fait, n'avait-elle pas éprouvé quelque chose de ce genre avant ces deux événements? Tout n'avait-il pas commencé quand ils avaient descendu les marches du Lear 35 pour être saisis par la chaleur de plomb de Fort Myers? Ou même avant, dans l'avion, entre Boston et la Floride. Ils arrivaient à un carrefour. Au milieu clignotait un feu jaune et elle pensa, à droite, il y aura un parking de voitures d'occasion et un panneau annonçant le théâtre de la communauté de Sanibel. Puis elle se dit, non, ce sera comme les croix qui n'étaient pas là. C'est une impression très forte, mais fausse. Au carrefour, il y avait bien un parking plein de voitures d'occasion, Palmdale Motors. Une sensation très vive parcourut Carol, produisit en elle un choc plus violent que de la simple inquiétude. Elle se dit d'arrêter d'être idiote. On voyait partout ce genre de garage de voitures d'occasion en Floride, et il suffisait d'en prédire un à chaque carrefour pour que les lois de la statistique fassent de vous, tôt ou tard, un prophète. Un truc utilisé par les soi-disant médiums depuis des siècles. Sans compter que le panneau du théâtre n'y est pas. Il y en avait cependant un autre. Marie, mère de Dieu, le fantôme de toute son enfance, tendant les mains comme sur le médaillon que sa grand-mère lui avait offert pour son 10e anniversaire. La vieille dame lui avait refermé la main dessus, entourant ses doigts de la chaîne, et lui avait dit « Porte-le toujours, car les choses difficiles vont commencer pour toi. » Et elle l'avait porté. Au collège et au lycée Notre-Dame-des-Anges, elle l'avait porté. Puis à Saint-Vincent-de-Paul. Elle l'avait porté jusqu'à ce que ses seins poussent de part et d'autre, comme dans un miracle ordinaire. Et puis, un jour, sans doute lors d'une sortie de classe jusqu'à la plage de Hampton, elle l'avait perdu. Dans le car, en revenant à la maison, elle avait embrassé un garçon en mettant la langue pour la première fois. Butch Soucy. Il s'appelait Butch Soucy. Elle avait senti le goût de la barbe à papa qu'il avait mangée. La Marie de cette médaille perdue depuis si longtemps et la Marie du panneau avaient exactement le même aspect. Celui qui vous fait sentir coupable d'avoir dépensé un pur même si vous ne rêvez que d'un sandwich au beurre de cacahuète. Sous la Vierge, on lisait ceci. « Mère des œuvres de charité et de miséricorde, aide les sans-logis de Floride. Nous aiderez-vous. »
Hé, dis donc, Marie, c'est quoi cette histoire ?
Plus d'une voix à présent, plusieurs, des voix de filles, des voix chantonnantes de fantômes. Là, c'était des miracles ordinaires, c'était aussi des fantômes ordinaires. C'était des choses qu'on découvrait en grandissant. « Quelque chose ne va pas ?
Elle connaissait ce ton comme elle connaissait le sourcil arqué et la fossette qui se creusait. Ce ton qui voulait dire « je fais simplement semblant d'être agacé » mais qui signifiait en réalité qu'il était agacé, au moins un peu. « Non, non, tout va bien. » Elle lui adressa le plus beau sourire qu'elle pût s'arracher. « Tu n'as vraiment pas l'air dans ton assiette. Tu n'aurais peut-être pas dû dormir dans l'avion. Tu dois avoir raison, » dit-elle, et pas seulement pour lui être agréable. Après tout, combien de femmes se voient offrir une deuxième lune de miel sur Captiva Island pour leur 25e anniversaire de mariage? Aller et retour en jet privé. 10 jours dans l'un de ces endroits où l'argent ne sert à rien, sauf lorsque Visa vous envoie la facture à la fin du mois. Et où, si l'on désire se faire masser, une Suédoise baraquée vient vous marteler le dos de nions savamment calculés dans votre maison de 6 pièces donnant sur la plage. Au début, les choses étaient différentes. Elle avait rencontré Bill une première fois lors d'une soirée dansante quand elle avait 17 ans, puis l'avait retrouvé 3 ans plus tard en fac, autre miracle ordinaire. Après leur mariage, il avait commencé sa carrière comme concierge, l'industrie des ordinateurs ne recrutant pas. C'était en 1973, les ordinateurs ne paraissaient pas avoir véritablement d'avenir, et ils habitaient dans un endroit sordide à Revere, pas très loin de la plage. Toute la nuit, c'étaient les bruits de pas des drogués montant l'escalier pour se rendre chez les 2 créatures au teint blême qui occupaient l'appartement au-dessus du leur, faisant passer à longueur de temps la musique planante des années 60. Carole, allongée sans dormir sur le lit, attendait que commencent les cris et se disait « Nous ne sortirons jamais de ce trou. Nous allons vieillir et crever avec en fond sonore les Pink Floyd et le boucan des foutues autotamponneuses sur la plage. » Bill, mort de fatigue à la fin de son service, dormait en dépit du bruit, allongé sur le côté, posant parfois la main sur la hanche de Carole. Et quand la main n'y était pas, c'était souvent elle qui la prenait pour la mettre là, en particulier si les créatures de l'étage au-dessus s'engueulaient avec leurs clients. Bill était son unique bien. Ses parents l'avaient pratiquement renié quand elle l'avait épousé. Il était certes catholique, mais pas de la bonne chapelle. Sa grand-mère lui avait demandé ce qu'elle pouvait bien trouver à ce garçon. Tout le monde voyait sans peine qu'il n'était qu'un bon à rien. Comment pouvait-elle avaler les balivernes qu'il lui racontait? Pourquoi voulait-elle briser le cœur de son père? Et qu'aurait-elle pu répondre? Elle était loin de ce trou à rats de Revere, dans le jet privé volant à 41 000 pieds. Loin, dans cette voiture de location, une Crown Victoria, le modèle que les voyous des films de gangsters appellent toujours Crown Vic, qui les conduisait dans un endroit où un séjour de 10 jours allait coûter... Elle ne préférait même pas y penser. Floyd ? Oh merde ! Carole ? Qu'est-ce qui se passe à présent ? Rien ! Un peu plus loin, il y avait un petit bungalow rose au bord de la route, avec un porche flanqué de 2 palmiers. La vue de ces arbres, avec leurs têtes hirsutes se détachant sur le ciel bleu, lui fit penser aux avions de chasse japonais, à ces zéros qui fonçaient à basse altitude faisant feu de leurs mitrailleuses, association qui était clairement la conséquence d'une jeunesse gaspillée à regarder la télé. Lorsqu'ils allaient passer devant la maison, une femme, une noire, en sortirait. Elle s'essuierait les mains à l'aide d'une serviette rose et les suivrait des yeux, le visage sans expression. De simples Richards allant à Captiva dans leur Crown Vic, et elle ne pourrait imaginer qu'il y avait eu un temps où Carole Shelton était restée réveillée la nuit dans un appartement à 90 dollars par mois, matraquée par la musique planante de l'appartement du dessus, sentant quelque chose de vivant en elle, quelque chose qui lui faisait penser à une cigarette tombée derrière des rideaux, dans une soirée petite, invisible, mais se consumant tout près du tissu. « Chérie ? Rien, je t'assure !» Ils arrivèrent devant la maison. Pas de femme noire. Un homme âgé et blanc, calé dans son rocking chair, les regarda passer. Il portait des lunettes sans monture et avait une serviette effilochée, du même rose que celui de la maison, en travers des genoux. « Je vais bien maintenant. Il me tarde simplement d'arriver pour pouvoir me mettre en short. » La main de Bill vint se poser sur sa hanche, là où elle s'était si souvent posée au cours de ses premiers jours, et se coula un peu plus avant. Elle fut sur le point de l'arrêter, des mains d'Italien et des doigts de Russe, disait-elle. mais n'en fit rien. C'était après tout leur deuxième voyage de noces, et cela ferait disparaître cette expression. On pourrait peut-être faire une petite pause, tu sais, entre le moment où tu n'auras plus ta robe et pas encore ton short.
C'est une excellente idée, répondit-elle.
Elle posa sa main sur celle de Bill et la pressa un peu plus fort contre elle. Elle aperçut un panneau au loin sur lequel, quand elle serait assez près pour le déchiffrer, elle lirait « Palm House, 3 miles à gauche ». En fait, il y avait « Palm House, 2 miles à gauche ». Un deuxième panneau, un peu plus loin, représentait une fois de plus la Vierge Marie, mains ouvertes, avec autour de la tête une petite vibration électrique qui lui faisait un halo raté. Cette fois, le texte disait « Mère des œuvres de charité et de miséricorde, aide les malades de Floride. Nous aiderez-vous ».
Sur le prochain, on devrait lire « Burma ».
Elle ne comprit pas ce qu'il voulait dire. Mais comme c'était manifestement une plaisanterie, elle sourit. « Mère des œuvres de charité et de miséricorde, aide les affamés ». Voilà ce qu'on pourrait lire sur le suivant, mais elle ne pouvait pas lui dire. « Cher Bill ». Oui, cher, en dépit de ses expressions parfois stupides et de ses allusions parfois obscures. « Il va certainement finir par te quitter, ma grande, et tu sais quoi? Si tu es capable de surmonter ça, ce sera probablement ton plus grand coup de chance. » Tel était le credo de son père. « Cher Bill, qui avait prouvé qu'une fois au moins, mais une fois cruciale, elle avait eu bien meilleur jugement que son père. Elle était toujours mariée à celui que sa grand-mère appelait la grande gueule. Elle avait payé le prix, certes, mais comme le dit l'ancien proverbe, « Dieu te dit, prends ce que tu veux et paie. » Sa tête la démangeait. Elle se gratta sans y penser, attendant l'apparition du prochain panneau à la Vierge. C'était un souvenir affreux. Mais les choses avaient commencé à mal tourner lorsqu'elle avait perdu le bébé. C'était juste avant que Bill ne décroche un poste chez Beach Computers sur la route 128, au moment où le vent avait commencé à se lever dans l'industrie des ordinateurs. Perdu le bébé. Fait une fausse couche. Tout le monde l'avait cru, sauf Bill, peut-être. La famille de Carol, elle, l'avait cru. Papa, maman, grand-mère. Fausse couche. Telle était leur version des faits. Une fausse couche était un drame typiquement catholique. « Hé, Marie, c'est quoi l'histoire ? » avait-elle parfois chanté en sautant à la corde, se sentant audacieuse, se sentant pécheresse, tandis que leur jupe d'uniforme remontait au-dessus de leurs genoux écorchés. C'était à Notre-Dame des Anges, où sœur Annunciata vous frappait les doigts de sa férule si vous regardiez par la fenêtre pendant la lecture des évangiles, où sœur Dormatilla vous disait qu'un million d'années n'était que le premier battement de l'horloge de l'éternité, et vous risquiez de passer l'éternité en enfer, comme la plupart des gens, rien de plus facile. En enfer, on vit éternellement la peau en feu et les os calcinés. Pour l'instant, elle était en Floride. Pour l'instant, elle roulait dans une Crown Vic, assise à côté de son mari dont la main était toujours glissée dans son entrejambe. Sa robe allait être toute froissée, mais quelle importance ? S'il quittait cette expression, et pourquoi cette impression ne disparaîtrait-elle pas ? Elle pensa à une boîte aux lettres, avec « Raglan » peint sur le côté, un drapeau américain en décalcomanie sur le devant. Et si, en fin de compte, le nom était Reagan et la décalco un autocollant des Grateful Dead, la boîte aux lettres était bien là. Elle pensa à un petit chien noir trottinant d'un pas vif de l'autre côté de la route, tête baissée, reniflant le sol, et le petit chien noir fut là. Elle pensa de nouveau au panneau, et oui, il y en avait bien un. « Mère des œuvres de charité et de miséricorde, aide les affamés de Floride. Nous aiderez-vous. » Bill le lui montrait. « Là, tu vois, je crois que c'est Palm House. Non, pas du côté du panneau, de l'autre. » Pourquoi laisse-t-on les gens poser ces trucs-là, d'ailleurs ? Je ne sais pas. Sa tête la démangeait toujours. Elle se gratta, et des pellicules noires tombèrent devant ses yeux. Elle regarda ses doigts, et vit avec horreur que leur extrémité était tachée de noir, comme si on venait de prendre ses empreintes digitales. « Bill ? » Elle passa une main dans ses cheveux blonds, et cette fois-ci recueillit des pellicules encore plus grosses. Ce n'était pas de la peau morte, se rendit-elle compte, mais des fragments de papier carbonisé. Sur l'un d'eux, on devinait un visage vu de face. On aurait dit un négatif saboté. « Bill !»«
Qu'est-ce que... » Puis sa voix changea totalement, ce qui l'effraya encore plus que l'embardée que fit la voiture.
« Mais bon Dieu, ma chérie, qu'est-ce que tu as dans les cheveux ?»
Le visage en négatif était celui de Mère Teresa, ou bien était-ce parce qu'elle avait pensé à Notre-Dame des Anges ? Elle prit le fragment carbonisé sur sa robe, dans l'intention de le montrer à Bill, mais il tomba en miettes. Elle se tourna alors vers lui. Ses lunettes avaient fondu dans ses joues. L'un de ses yeux avait jailli de son orbite et pendait, fendu en deux, comme un grain de raisin rempli de sang.
« Et je le savais, » pensa-t-elle. « Même avant de me tourner, je le savais, parce que j'avais cette impression. »
Un oiseau poussait son cri dans les arbres. Sur le panneau, Marie tendait les mains. Carole voulut hurler, essaya de hurler.
« Carole ?»
La voix de Bill, qui paraissait lui parvenir de 1000 kilomètres. Puis sa main, non pas repoussant les plis de sa robe entre ses cuisses, mais posée sur son épaule.
« Tu vas bien, ma chatte ?»
Elle ouvrit les yeux dans l'éclat du soleil. Ouvrit les oreilles au bourdonnement régulier du Learjet. Et elle éprouva aussi autre chose, une pression sur ses tympans. Son regard alla du visage de Bill, sur lequel on lisait un peu d'inquiétude, au cadran placé sous l'indicateur de température de la cabine et vit que l'aiguille indiquait maintenant 28 000 pieds.
« On atterrit ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle jugea empâtée.
« Déjà ?» Rapide, hein ? Il paraissait content, comme s'il était lui-même aux commandes de l'avion et non un simple passager. D'après le pilote, nous toucherons le sol dans 20 minutes.
Tu as sursauté, c'était impressionnant, ma grande.
J'ai fait un cauchemar.
Il éclata de rire, de son rire gloussant, mon Dieu, qu'elle est bête, qu'elle en était venue à vraiment détester. Les cauchemars sont interdits pendant un deuxième voyage de noces, ma chérie.
Qu'est-ce qui t'arrivait ?
« Je ne m'en souviens plus, » répondit-elle. Elle ne mentait pas. Il ne lui en restait que des fragments épars.
Bill, dont les lunettes avaient fondu dans ses joues, et l'une des deux ou trois lignes détournées d'un hymne qu'elle chantait avec ses copines quand elle avait 10 ou 11 ans. Celle qui disait « Hé, Marie, c'est quoi l'histoire ?» et puis « Nia nia nia, nia nia nia, nia 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 » Impossible de se rappeler la suite. Elle se souvenait de « Jungle, tangle, jingle, bingle, j'ai vu de mon papa le grand dingle ». Mais impossible de se remémorer celle sur Marie.
« Marie aide les malades de Floride », pensa-t-elle, sans la moindre idée de ce que cette phrase signifiait.
À ce moment-là, un bip retentit accompagné du signal « Attachez vos ceintures ». Ils entamaient la dernière descente.
« En avant, pour l'équipée sauvage », pensa-t-elle, en obéissant à l'ordre du pilote.
« Tu ne t'en souviens vraiment pas ?» demanda-t-il en attachant lui aussi sa ceinture. Le petit jet s'enfonça dans un nuage qui se mit à les secouer. Le pilote procéda à quelques ajustements et le vol reprit son cours normal. Parce que d'habitude, on peut encore s'en souvenir tout de suite après le réveil, même des mauvais rêves.
« Si, je me souviens de Sœur Annunciata de Notre-Dame des Anges, pendant la lecture des évangiles. »«
Ça, c'est un cauchemar !» 10 minutes après... Un sifflement et un coup sourd leur apprirent que le train d'atterrissage venait d'être sorti. Et 5 minutes plus tard encore, ils touchaient le sol à Fort Myers.
Ils devaient en principe amener la voiture jusqu'au pied de l'avion, dit Bill, tout de suite prêt à faire son numéro d'emmerdeur grand format. Numéro qu'elle détestait, mais pas autant que son rire gloussant ni que son catalogue de sourires condescendants.
J'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur.
Non. « Il n'y en a pas eu, » pensa-t-elle, et l'impression la balaya irrésistible. « Je vais la voir apparaître par le hublot d'ici une seconde ou deux. La super bagnole vacances en Floride elle-même, une bon Dieu de Cadillac blanche ou peut-être une Lincoln. »
Et, en effet, elle se présenta. Mais ça prouvait quoi ? « Eh bien, » supposa-t-elle, « cela prouvait que, parfois, lorsqu'on avait eu une impression de déjà-vu, ce que vous avez pensé qu'il allait arriver se réalisait. » Ce n'était cependant ni une Cadillac ni une Lincoln, en fin de compte, mais une Crown Victoria. La voiture que les gangsters dans les films de Martin Scorsese appelleraient sans aucun doute une Crown Vic.
« Oula !» dit-elle, tandis qu'il l'aidait à descendre l'escalier de l'avion. La chaleur du soleil lui faisait tourner la tête.
Quelque chose ne va pas ?
Non, rien, vraiment.
Une impression de déjà-vu. Un reste de mon rêve, je crois bien. L'impression que nous sommes déjà venus ici, un truc dans ce genre.
C'est le fait d'être dans un lieu étranger, c'est tout, dit-il, l'embrassant sur la joue.
Allez, viens, que l'équipée sauvage commence.
Ils allèrent jusqu'à la voiture. Bill montra son permis de conduire à la jeune femme qui avait amené la voiture jusque-là. Carole le vit jeter un coup d'œil à la mini-jupe de celle-ci avant de signer le papier qu'elle lui tendait sur une planchette.
« Elle va la laisser tomber », pensa Carole.
L'impression était à présent très forte. C'était comme dans une attraction foraine qui va un peu trop vite. On se rend compte, tout d'un coup, qu'on est sur la frontière entre le pays de la rigolade et le royaume de la nausée.
Elle va la laisser tomber, et Bill va dire une ânerie et se précipiter pour la ramasser. Comme ça, il pourra voir ses jambes d'encore plus près.
Mais la jeune employée de Hertz ne laissa pas tomber sa planchette. Un van blanc s'était approché pour la ramener à l'aérogare. Elle adressa un dernier sourire à Bill, elle avait complètement ignoré Carole, avant d'ouvrir la portière du van. Elle avança une jambe pour monter et glissa.
« Attention à la marche !» dit Bill d'un ton badin en la retenant par le coude.
Elle lui sourit. Il eut un regard d'adieu appuyé pour ses jolies jambes, tandis que Carole se tenait à côté de leur pile de valises et pensait « Eh, Marie !»
Mrs. Shelton, c'était le copilote. Il tenait à la main leur dernier bagage, l'ordinateur portable de Bill dans sa mallette, et paraissait inquiet.
« Vous vous sentez bien ? Vous êtes très pâle !» Bill l'entendit et se tourna, tandis que s'éloignait le van blanc. Il avait lui aussi l'air inquiet. Si les sentiments les plus forts qu'elle éprouvait pour Bill aujourd'hui avaient été les mêmes qu'il y a 25 ans, elle l'aurait quitté quand elle avait découvert sa liaison avec une secrétaire, une blonde clairole trop jeune pour se souvenir du slogan publicitaire du décolorant « Si je n'ai qu'une vie à vivre !» Mais elle éprouvait d'autres sentiments. De l'amour, par exemple. Encore de l'amour. Une forme d'amour que ne soupçonnaient pas les collégiennes catholiques en uniforme. Une variété rude et sans tendresse, trop coriace pour mourir. Sans compter que ce n'était pas seulement l'amour qui faisait tenir les couples. Il y avait les secrets et le prix qu'il fallait payer pour les garder.
« Carole, demanda-t-il, ma chatte, ça va ?»
Elle pensa un instant lui répondre que non, que ça n'allait pas, qu'elle se noyait. Mais elle réussit néanmoins à sourire.
C'est la chaleur. C'est tout. Je me sens un peu hébété. Aide-moi à monter dans la voiture et mets l'air conditionné à fond. Ça ira mieux.
Bill la prit par le coude. Je parie que tu ne lorgnes pas mes jambes, pensa Carole. Tu sais trop bien jusqu'où elles vont, pas vrai ? Et la conduisit jusqu'à la Crown Vic, comme si elle était une très vieille dame. Une fois la portière refermée, l'air frais venant lui caresser le visage, elle commença à se sentir un peu mieux.
« Si cette impression revient, je le lui dirai. Je n'ai pas le choix. Elle est trop puissante. Ce n'est pas normal. »
À vrai dire, la sensation de « déjà vu » n'était probablement déjà pas normale en soi. Un phénomène en partie onirique, en partie chimique. Elle se souvenait d'avoir lu cela quelque part, sans doute dans l'antichambre d'un cabinet médical pendant qu'elle attendait que son gynéco vienne inspecter sa chatte, quinquagénaire depuis 2 ans. Et en partie dû à un dérèglement électrique du cerveau, donnant l'impression qu'une expérience pourtant nouvelle ne faisait que se répéter. Une interface temporaire dans la tuyauterie, eau froide et chaude se mélangeant. Elle ferma les yeux et fit une prière pour que tout cela disparaisse. Ô Marie, toi qui conçus sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi. Par pitié. Par pitié, comme elle disait.
Que je ne me retrouve pas à l'école. Ils étaient supposés prendre des vacances et non pas...
Mais enfin, Floyd ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh merde, merde !
Qui était ce Floyd ? Le seul que connut Bill était ce Floyd Donning ou Darling, qui avait tenu avec lui le snack bar, celui qui était parti faire une virée à New York avec sa petite amie en emportant la caisse. Carole ne se rappelait pas quand Bill lui en avait parlé, mais elle était sûre qu'il l'avait fait.
« Laisse tomber tout ça, ma grande. Il n'y a rien de bon pour toi là-dedans. Claque donc la porte sur tout ce train de pensée. »
Et ça marcha. Il y eut un dernier murmure.
« C'est quoi l'histoire ? »
et elle ne fut de nouveau rien que Carol Shelton, en route pour Captiva Island, en route pour Palm House avec son mari, le célèbre informaticien Bill Shelton, en route pour les plages et les cocktails au rhum, au son d'un steel band jouant Margaritaville. Ils passèrent devant un supermarché Publix. Ils passèrent devant un éventaire de fruits, tenu en bord de route par un noir qui lui fit penser aux acteurs des films des années 30 qu'elle regardait parfois sur la chaîne cinéma américain classique, le genre « Oui, patron, oui, missier », avec sa salopette et son chapeau de grosse paille. Bill lui parlait de choses insignifiantes et elle opinait là où il le fallait. Elle était légèrement stupéfaite à l'idée que la petite fille qui avait porté son médaillon de la Vierge Marie de 10 à 16 ans fût devenue cette femme, habillée en Donna Karan. À l'idée que le jeune couple qui avait touché le fond du désespoir dans cet appartement sordide de Revere fut celui d'âge mûr qui roulait en ce moment même entre deux rangées de palmiers royaux, dans une limousine de luxe. Et pourtant, telle était bien la réalité. Jadis, à l'époque de Revere, il était revenu un soir ivre à leur domicile. Elle l'avait giflé et sa joue avait saigné. Jadis, elle avait eu peur d'aller en enfer, s'était retrouvée allongée entre des étriers d'acier pensant « Je suis damnée, je viens de signer ma damnation. 1 million d'années et ce n'est que le premier battement de l'éternité. » Ils s'arrêtèrent au péage, juste avant la digue. Et Carole pensa, le type du péage aura une marque de naissance couleur fraise au front, côté gauche, descendant jusque dans son sourcil. L'homme n'avait aucune marque. Rien qu'un type ordinaire approchant la cinquantaine, ou l'ayant peut-être atteinte, cheveux grisonnants coupés en brosse, lunettes à monture d'écaille, le genre à vous dire, vous allez avoir un temps superbe, avec un accent à couper au couteau. Mais l'impression commença à lui revenir tout de même. Et Carole prit conscience qu'à présent, les choses qu'elle pensait savoir étaient des choses qu'elle savait réellement, d'abord pas toutes, puis, le temps qu'ils arrivent à hauteur du petit supermarché sur le côté droit de la route 41, presque toutes. Le nom du supermarché sera Corsons, et il y aura une petite fille devant. Elle portera un tablier rouge par-dessus sa robe. Elle tiendra une poupée, une guenille aux cheveux jaunes qu'elle abandonnera sur les marches pour aller regarder un chien à l'arrière d'un monospace. Le nom du supermarché était Carsons, pas Corsons, mais sinon, tout le reste était identique. Lorsque la limousine passa devant, la petite fille en rouge tourna son visage à l'expression sérieuse vers Carole. Un visage de petite campagnarde. On pouvait se demander ce qu'une gamine de la Cambrousse pouvait bien fabriquer au pays des touristes fortunés avec sa poupée de chiffon crasseuse. Et voici le moment où je devrais demander à Bill si c'est encore loin. Mais je ne vais pas le faire. Parce qu'il faut que je m'échappe de ce cercle vicieux, que je saute de ce sillon, il le faut. C'est encore loin ? Demanda-t-elle. Il va dire qu'il n'y a qu'une route, que nous ne pouvons pas nous perdre, que nous allons arriver à Palm House sans problème et, au fait, qui est Floyd ? Le sourcil de Bill se haussa. La fossette apparut au coin de sa lèvre. Une fois qu'on a pris la route de la digue et qu'on est sur Sanibel Island, il n'y a qu'une route, répondit-il. C'est à peine si Carole l'entendit. Il parlait encore de l'itinéraire, ce mari qui avait passé un week-end d'ignominie dans le lit de sa secrétaire 2 ans auparavant, mettant en danger tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient réalisé, Bill affublé de son autre masque. Ce Bill, dont la mère de Carole avait prédit qu'il lui briserait le cœur. Et plus tard, Bill essayant de lui expliquer que ça avait été plus fort que lui, tandis qu'elle avait envie de hurler et dire que j'ai un jour assassiné un enfant pour toi, ou du moins la possibilité d'un enfant. Quel prix doit-on payer pour ça? Est-ce là ma récompense, arriver à 50 ans pour découvrir que mon mari s'envoie en l'air avec une blonde décolorée parce que c'est plus fort que lui? Dis-lui, hurlait-elle dans sa tête. Oblige-le à s'arrêter sur le bas-côté. Fais-lui faire n'importe quoi qui te libérera. Change une chose, change tout. Tu le peux. Si tu as pu mettre les pieds dans ses étriers, tu peux faire n'importe quoi. Mais non, elle ne pouvait rien faire. Et tout se mit à s'accélérer. Les deux corbeaux suralimentés décollèrent lourdement de leur festin écrabouillé. Son mari lui demanda pourquoi elle se redressait brusquement, si elle avait une crampe, et elle répondit « Oui, c'est une crampe dans le dos, mais ça passait ». Sa bouche se mit à caqueter à propos de l'impression de déjà-vu, comme si elle se noyait dedans. et la Crown Vic continua d'avancer, aussi pesante que l'une de ces maudites autotamponneuses de la plage de Revere. Puis apparut le garage Palmdale Motors sur la droite, et sur la gauche, une sorte de panneau annonçant la prochaine pièce de la troupe locale, Naughty Marietta. Non, c'est Marie, pas Marietta, Marie, mère de Jésus-Christ, mère de Dieu, qui vous tend les mains. Carole voulut, de toute sa volonté, dire ce qui se passait à son mari, parce que c'était le bon Bill derrière le volant, et que le bon Bill était encore capable de l'écouter. Et être écouté était ce qui importait dans une relation de couple aimante. Rien ne sortit de ses lèvres. Dans sa tête, grand-mère disait « Les choses difficiles vont commencer pour toi ». Dans sa tête, une voix demandait à Floyd ce qui se passait, puis disait « Oh merde !» puis hurlait « Oh merde !» Elle regarda le compteur de vitesse et vit qu'il se lisait non pas en miles à l'heure, mais en milliers de pieds. Ils étaient à une altitude de 28 000 pieds et ils descendaient. Bill lui disait qu'elle n'aurait pas dû dormir et elle approuvait. Une maison rose se profilait devant eux, à peine plus qu'un simple bungalow, entouré de palmiers comme on en voit dans les films sur la Seconde Guerre mondiale, les palmes encadrant les Learjets en approche, leurs mitrailleuses faisant feu. Feu, flamme, brûlé, le magazine qu'il tient dans les mains s'enflamme soudain, une torche. Vierge Marie, mère de Dieu, et là, Marie, c'est quoi l'histoire? Ils passèrent devant la maison. Le vieil homme était assis sur le porche et les suivit des yeux. Les verres de ses lunettes sans monture brillaient dans le soleil. La main de Bill lança une tête de pont sur sa hanche. Il lui dit qu'il pourrait peut-être faire une petite pause canaille entre le moment où elle allait enlever sa robe et celui où elle enfilerait un short, et elle lui dit d'accord, même si jamais il n'arriverait à Palm House. Il continuerait à rouler sur cette route, dans la Crown Vic blanche, la Crown Vic blanche qui était pour eux pour l'éternité et à jamais. Amen. Sur le prochain panneau, elle allait lire Palm House, 2 miles. Peu après, un autre lui apprendrait que la mère des œuvres de charité et de miséricorde aide les malades de Floride. L'aiderait-elle, elle? Elle commençait à comprendre, maintenant qu'il était trop tard. Commençait à voir la lumière de la même manière qu'elle voyait le soleil subtropical scintiller sur l'eau à sa gauche. Se demandant combien de fautes elle avait commises dans sa vie, combien de péchés, si on préférait ce mot. Dieu sait si ses parents et sa grand-mère l'avaient préféré, péché par-ci, péché par-là, et porte ce médaillon entre ses rondeurs qui te poussent et sur lesquels lorgnent les garçons. Et des années plus tard, elle s'était retrouvée au lit, à côté de son mari, par des nuits d'été brûlantes, sachant qu'une décision devait être prise, sachant que le compte à rebours était commencé, que le mégot se consumait. Et elle se souvenait d'avoir pris seule la décision, car on peut garder le silence sur certaines choses. Sa tête la démangeait. Elle se gratta, et des pellicules noires voltèrent devant ses yeux. Sur le tableau de bord de la voiture, le compteur de vitesse se bloqua à 16 000 pieds, mais Bill ne parut pas s'en apercevoir. Puis ce fut la boîte aux lettres, avec l'autocollant des Grateful Dead apposé dessus. Puis le petit chien noir trottinant affairé, la tête baissée, et, Seigneur, qu'est-ce que sa tête la démangeait! Les fragments noirs voltaient dans l'air, comme des retombées d'elle ne savait quoi. Le visage de Mère Teresa apparaissant sur l'un d'eux. Mère des œuvres de charité et de miséricorde, aide les affamés de Floride. Allez-vous nous aider? Floyd? Mais enfin, Floyd! Qu'est-ce qui se passe? Oh merde! Elle a le temps de voir quelque chose de gros et de lire le mot « Delta ». « Bill, Bill !» Sa réponse, parfaitement audible, lui parvenant néanmoins depuis l'autre bout de l'univers. « Mais bon Dieu ma chérie, qu'est-ce que tu as dans les cheveux ?» Elle prit entre ses doigts les restes carbonisés du visage de Mère Teresa et les tendit à cette version vieillie de l'homme qu'elle avait épousé, le baiseur de secrétaire qu'elle avait épousé. L'homme, qu'il avait cependant délivré des gens qui pensaient que l'on pouvait vivre éternellement au paradis, pourvu qu'on brûle assez de cierges, qu'on porte un blazer bleu et qu'on s'en tienne aux versets appropriés des hymnes. Allongée à côté de cet homme, par une brûlante nuit d'été, pendant que le trafic de drogue allait bon train à l'étage au-dessus et que Iron Butterfly chantait « In Gadada Bida » pour la 10 milliardième fois, elle lui avait demandé ce qu'il pensait qu'il y avait après. Une fois votre participation au spectacle terminée. Il l'avait prise dans ses bras
et l'avait tenue et, au loin sur la plage, elle avait entendu le vacarme des installations foraines et les auto-tamponneuses qui s'entrechoquaient, et Bill... Les lunettes de Bill avaient fondu dans son visage. Un œil menaçait de jaillir de son orbite. Sa bouche n'était qu'un trou sanguinolent. Un oiseau poussait son cri dans les arbres. Un oiseau hurlait et Carole se mit à hurler à l'unisson, tendant devant elle les restes carbonisés du papier avec la photo de Mère Teresa, hurlant, voyant ses joues devenir noires et son front grouillé et son cou se fendre comme un goitre empoisonné. Elle hurlait tandis que quelque part, Iron Butterfly chantait In Gada Da Vida et elle hurlait. Carole ? La voix de Bill, à 1000 lieues. Sa main était posée sur elle, mais exprimait de l'inquiétude plutôt que du désir. Elle ouvrit les yeux et regarda autour d'elle, dans la cabine du Lear 35 qui illuminait le soleil, et pendant une seconde, elle comprit tout, à la manière dont on comprend la formidable importance d'un rêve à l'instant du réveil. Elle se souvint de lui avoir demandé ce qu'il pensait trouver après, et lui avait répondu qu'on trouvait sans doute ce à quoi on s'était toujours attendu, que si Jerry Lee Lewis s'était attendu à aller en enfer pour avoir joué du boogie-woogie, c'était exactement là qu'il irait. Au paradis ou à Pétahouchnock. Bon Dieu, c'était votre choix ou celui auquel on vous avait appris à croire. C'était la grande mystification finale de l'esprit humain, la perception de l'éternité à partir de l'endroit où vous vous étiez toujours attendu à la passer. Carole, ça va mon chou ? Il tenait à la main le magazine qu'il lisait, un numéro de Newsweek avec la photo de Mère Teresa en couverture. « La canonisation » était-il écrit en lettres blanches. Jetant des coups d'œil effarés autour d'elle, elle pensa « C'est à 16 000 pieds que ça se produit. Il faut que je leur dise. Il faut que je les avertisse. » Mais l'impression s'évanouissait rapidement, d'ordinaire. Comme des rêves, comme de la barbe à papa se transformant en une brume sucrée sur la langue. On atterrit, déjà ? Elle se sentait parfaitement réveillée, mais sa voix lui paraissait pâteuse, épaisse. « Rapide, hein ?» Il paraissait content, comme s'il était lui-même aux commandes de l'avion et non un simple passager. « Floyd dit que nous toucherons le sol dans... Qui ?» Le coupa-t-elle ? Il faisait bon dans la petite cabine, mais elle avait les doigts glacés. « Qui ça ?»« Floyd ! Tu sais bien, le pilote !» Il montra du doigt le siège de gauche dans le cockpit. Il descendait au milieu de quelques nuages épars. L'avion se mit à trembler. Il dit que nous atterrirons dans 20 minutes à Fort Myers. Tu as sursauté, c'était impressionnant, ma grande. Et avant, tu as gémi. Carole ouvrit la bouche. Elle voulait dire qu'elle avait eu cette impression, celle qui n'a de nom qu'en français, une expression qui se terminait par « vu » ou « vous ». Mais déjà, elle s'évanouissait et elle dit simplement qu'elle avait eu un cauchemar. Il y eut un bip lorsque Floyd, le pilote, brancha le signal « Attachez votre ceinture ». Carole tourna la tête. Quelque part là, en dessous, les attendant à présent et pour l'éternité, se trouvait une voiture de location blanche. Une voiture de voyous, du type de celle que les gangsters dans les films de Scorsese appelleraient une Crown Vic. Elle regarda la couverture de la revue, regarda le visage de Mère Teresa, et se rappela tout d'un coup comment elle avait sauté à la corde derrière Notre-Dame des Anges, et sauté des paroles de l'hymne à d'autres en même temps, des paroles interdites, des paroles qui disaient « Hé, Marie, c'est quoi l'histoire ? Tire mon cul du purgatoire !»« Les choses difficiles vont commencer pour toi », lui avait dit sa grand-mère. Elle avait pressé la médaille dans la main de Carole, enroulé la chaîne autour de ses doigts. Les choses difficiles vont commencer. C'est une histoire qui parle de l'enfer, me semble-t-il. Une version de l'enfer dans laquelle on est condamné à revivre éternellement la même chose. L'existentialisme, mon lapin, quel concept tout de même, voire Jean-Paul Sartre. D'après lui, l'enfer serait les autres. À mon sens, ça pourrait bien être une éternelle répétition.